Donald Trump must be stopped. I've beaten him before, and I will do it again. I'm Bill de Blasio, and I'm running for president because it's time we put working people first.
Le maire de New York se lance dans la course à la présidence. Et il augmente le nombre de candidats et de candidates chez les démocrates.
On est rendu, dépendant du compte, Paul, à 24 candidats présidentiels du côté démocrate. Ça a carrément des allures de cirque. Donc, le maire de New York en est à son deuxième mandat, qui s'était fait un nom, je te dirais, à l'échelle nationale lors de sa première campagne victorieuse en 2013, comme un champion de la gauche américaine. Il promettait alors l'adoption d'un salaire minimum à 15 $ de l'heure. Et dans le vidéo dont on vient tout juste d'entendre un extrait, la vidéo de lancement de campagne, c'est vraiment là-dessus qu'on mise. Là. Des politiques clairement inscrites à gauche du spectre politique américain. Donc, l'adoption justement qui a eu lieu du salaire minimum à 15 $, les soins de santé garantis, les congés de maladie payés également garantis, les frais de garderie entièrement défrayés par la ville de New York, etc. Mais c'est un candidat de plus, Paul, qui s'adresse à la faction la plus à gauche de l'électorat démocrate. Et donc, il y a un type en particulier qui est mort de rire dans tout ça, c'est Joe Biden, l'ex-vice-président, parce qu'il est déjà très largement en avance sur son plus proche rival. Et il y a une opposition, tu le disais, on est rendu à plus de 20 candidats. Tu as une opposition qui est divisée et qui s'adresse presque toutes au même type d'électeurs, donc les électeurs les plus à gauche du parti.
Ça,
Biden. Biden qui vise vraiment une niche différente. Donc, il est à peu près seul à s'adresser à son monde à lui. Et tu as 20 candidats qui vont se battre entre eux et entre elles. C'est assez particulier. Il y a un autre type qui a réagi de façon un petit peu différente à la candidature de de Blasio. C'est le résident sans doute le plus connu de la ville de New York, le président des États-Unis, Donald Trump, qui a émis un tweet, Paul, à 5h30 ce matin, disant, et je le cite, « Si vous aimez les impôts élevés et la criminalité, Bill de Blasio est votre homme. » Et là, et ceci en lettres majuscules, New York le déteste. Point
bon,
d'exclamation.
Voilà.
C'est clair.
La gouverneure de l'Alabama a signé le projet de loi sur l'avortement qui a causé la controverse aux quatre coins de l'Amérique et même, on peut dire, au-delà de l'Amérique, puisque même le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi.
Ça ne laisse personne indifférent. Même Justin Trudeau, comme tu le disais, qui a réagi à ça. La gouverneure, donc, républicaine de l'État qui a signé le projet de loi au courant des dernières heures, qui, on le rappelle, ferait en sorte que toute personne qui fait un avortement, non pas qui reçoit un avortement, mais qui en fait un, serait passable d'une peine de prison allant de 10 à 99 ans. Et tu as eu aujourd'hui même le leader républicain à la Chambre des représentants à Washington qui est allé dire publiquement que selon lui, la loi allait trop loin. Pourquoi? Parce qu'elle ne contenait aucune exception, même dans les cas de viol et d'inceste. Et ce qui est intéressant, c'est que la gouverneure de l'Alabama a avoué, elle aussi publiquement, qu'elle ne croyait même pas que la loi serait applicable. Parce que de toute façon, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de lancer une contestation judiciaire qui va avoir lieu assurément, qui va se rendre jusqu'en Cour suprême américaine pour faire renverser le fameux jugement qui avait légalisé l'avortement à l'échelle nationale. Cela étant dit, Paul, il y a un nouvel État qui est déjà en voie d'emboîter le pas à l'Alabama. Tu as le Sénat du Missouri qui vient d'adopter à plus des deux tiers des voix un projet de loi qui interdirait également l'avortement après 8 semaines de grossesse, incluant dans les cas de viol et d'inceste. Donc, très semblable au projet de loi, en fait, à la loi en Alabama. Là, ça n'a pas encore passé la Chambre des représentants du Missouri, mais les chances sont assez bonnes et le gouverneur républicain a dit qu'il allait signer le projet de loi s'il arrivait à son bureau.
Et on termine avec la Maison-Blanche qui présente sa proposition de réforme de l'immigration et Donald Trump se dit prêt à accueillir des migrants sur la base du mérite. S'ils sont méritants, ils vont entrer.
Oui, incluant s'ils sont capables de passer un test sur les connaissances civiques, s'ils parlent suffisamment bien anglais, etc. Donc l'idée, et ça je te dirais que c'est un des principes fondamentaux de la candidature et de la présidence Trump lorsqu'il est question d'immigration, c'est de transformer le système d'immigration américain pour le rendre beaucoup plus axé sur le mérite plutôt que ce qu'il est présentement, c'est-à-dire axé sur les liens familiaux. Donc si vous avez un lien du sang avec une personne ou des personnes qui sont résidents permanents ou qui sont immigrants autorisés aux États-Unis ou qui deviennent citoyens, c'est plus facile pour vous après coup d'immigrer. Donc, Trump veut changer ça. Au final, disons-le clairement, les chances que ça aille quelque part au Congrès, cette mesure-là, sont à peu près nulles. Il n'y a aucun espèce de démocrate qui a été consulté pour l'élaboration de cette mesure-là. Donc, c'est vraiment un projet républicain. C'est un document politique qui va être utilisé clairement en vue des élections de 2020. Je finis quand même en disant ceci, Paul. Le type qui a piloté cette affaire-là, c'était le gendre du président Jared Kushner. Je te pose aussi la question, qui a été chargé de convaincre le Congrès de ratifier l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique?
Ah,
Jared Kushner.
Jared Kushner.
Et qui a été chargé de mener à terme le processus de paix au Moyen-Orient?
Ah, Jared Kushner.
Un homme quand même assez occupé. Un enfant prodige, même.
Le mari de sa fille.
En effet.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob. La pause des informations de 16 heures.